Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec aujourd'hui Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Olivier Babeau, le président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, auteur de La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord et qui fait partie des animateurs du membre du manifeste pour l'industrie. Y a plein de réactions. Débat passionnant. Me dit Marie.
Ah, comme quoi.
Ben voilà.
Passionné en tout cas. Un peu de clash de temps en temps.
Alors, ça fait 10 ans que M. Tavares est à la tête de ce qui est devenu Stellantis. Il doit y avoir 8, 9, 10 marques chez Stellantis. Les principales étant évidemment PSA, Citroën, Chrysler, Fiat. Mais on doit pouvoir citer Maserati de mémoire, Jeep. Enfin, il y a des quantités de marques maintenant dans cette entreprise. Le redressement de la boîte est absolument spectaculaire. Sauf qu'il affiche pour 2023 une rémunération. Alors, il faudrait décortiquer tout ça. Il y a du fixe, il y a du variable, il y a des actions avec exertion de l'action à terme si les performances sont atteintes. C'est toujours assez complexe, la rémunération. C'est pas un salaire, voilà. Reste que c'est un montant très élevé. On n'a jamais vu ça dans le secteur automobile. C'est quasiment 7 fois au-dessus de la médiane de ce qu'on constate chez les patrons de l'automobile en Europe. C'est également supérieur aux rémunérations des grands patrons de l'automobile aux États-Unis, que ce soit Ford ou General Motors. J'ai cherché ce matin les rémunérations précises, j'ai pas retrouvé les chiffres, mais enfin, on est vraiment au-dessus. L'un des arguments avancés par Stellantis, c'est de dire que l'essentiel du chiffre d'affaires de Stellantis est réalisé hors d'Europe, 70%, et que donc tout ça ne pose aucun problème. Reste qu'il y a quand même des associations, Proxinvest, pour citer la plus célèbre d'entre eux, qui ont décidé de s'opposer aujourd'hui à cette rémunération. Ça ne changera pas grand-chose, car l'entreprise est de droit néerlandais, ce qui veut dire que le vote des actionnaires ne sera que consultatif et ne remettra pas en cause, quoi qu'il arrive, le montant que j'ai cité. Olivier Babeau, est-ce qu'il y a des arguments pour considérer qu'il n'y a rien... Pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir.
Alors, comme ça va être beaucoup attaqué, j'ai envie de me mettre du côté de la défense. Voilà. Parce que je sais qu'il y aura des procureurs suffisamment sur tous les plateaux, donc j'ai envie de me mettre sur le côté de la défense. Même si je dois commencer par dire que je regrette que la décision de l'Assemblée Générale ne soit que consultative. Je pense que, mais ça c'est le droit néerlandais, c'est comme ça, mais je trouve qu'il faudrait, parce que je suis pour la transparence, je suis pour des indicateurs qui soient liés à la performance, et à ce moment-là, après, c'est aux actionnaires de dire si c'est normal qu'ils soient payés autant ou pas. Malheureusement, probablement ça ne sera pas le cas, et on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense ? En effet, depuis 10 ans, la croissance a été extraordinaire. Que quand Carlos Tavares a pris les commandes de PSA à l'époque, c'était une entreprise moribonde.
Elle grillait du cash.
S'il y a bien une illustration,
c'est vrai,
du fait que la valeur ajoutée d'un bon dirigeant, c'est de permettre à des centaines de milliers d'employés, et puis à des clients derrière, et puis à tout un écosystème, finalement, de réussir là où il aurait pu échouer. Et que finalement, c'est pas cher payé. Si vous regardez par rapport à l'espèce de succès que ça produit, et qu'il vaut mieux avoir effectivement quelqu'un qui va être payé plus cher et qui va réussir, plutôt que quelqu'un qui va être payé moins, mais qui va échouer. Si vous comparez maintenant, alors, son fixe, ça n'est que 2 millions. Hein, mais 2 millions, c'est déjà relativement élevé. J'ai dit que 2 millions. J'aimerais bien aussi, mais ça n'est que 2 millions. Après, effectivement,
à 2 millions, on doit être à peu près dans la moyenne des patrons du CAC sur le fixe.
Oui.
Je crois qu'on est plutôt dans le million et demi sur le fixe.
Alors, il faut savoir qu'en France, on est très mal payé par rapport aux États-Unis. Hein.
En général,
aux États-Unis,
oui,
est plutôt.
Il y a un différentiel important, voilà. C'est vrai, par rapport aux grands patrons américains. Je ne sais pas si la comparaison
est
la bonne.
Unissez-vous.
On est quasiment à un multiple de 400 aux États-Unis, un peu plus. Chez nous, on est beaucoup, beaucoup plus bas. Si on regarde la patronne de General Motors, tort. C'est quand même le groupe qui est le plus proche, en fait, en termes de concurrence. On n'est vraiment pas très très loin. En 2022, on n'a pas le chiffre encore 2023, mais en 2022, c'était 29 millions de dollars. Oui, donc vous voyez, on était à peu près dans la même idée. On est très très loin d'Alphabet à 226 millions de dollars en 2022, ou même d'Oracle à 138 millions.
Alors, Alphabet, c'est la maison mère de Google.
Oui, c'est Google. Bon, alors, effectivement, c'est de la tech, on va dire, c'est très spécial. Mais regardez combien cette industrie est difficile. Je trouve que ce qu'on ferait mieux de commenter plutôt que la rémunération. Et encore une fois, je veux dire, si elle est baissée ou si elle, enfin, je défends pas spécialement Carlos Tavares, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais si on, au lieu de regarder la rémunération, on parlait de ce qui a fait le succès stratégique, de des décisions qui ont été prises dans ce marché si difficile. C'est ça qui ferait, je trouve, qui serait plus intéressant pour l'opinion de comprendre comment une entreprise peut redresser la barre, peut réussir et comment pas quelle stratégie il a suivi. Je trouve que si on utilisait les temps de débat pour commenter ça, je trouve que collectivement on y gagnerait beaucoup plus. Voilà, parce que c'est toujours un peu stérile ces histoires.
Effectivement, en France, je rappelle que si l'Assemblée Générale dit non à une rémunération, elle est retoquée. Voilà.
Oui.
Et donc c'est une bonne chose. Une entreprise.
C'est une bonne chose, oui. Les actionnaires devraient.
Oui, absolument. Non, mais oui. La parole est aux actionnaires. Bon, c'est courageux de chercher effectivement à être l'avocat de la situation.
J'ai toujours défendu les rémunérations des patrons. Non, mais... J'ai trouvé que c'est un faux débat. Mais voilà.
Bon, moi, je peux réagir.
Alors vous avez le droit de réagir, Dany Long.
Sans être traité de soviéto nostalgique de la Pologne soviétique et de voilà. Non, mais
je vous ai absolument pas dit que vous étiez soviéto.
Non, non, pas vous, mais bon, c'est ce que j'ai entendu ce matin.
Ah, j'ai des gauches radicales.
Non, oui, bah voilà, bah, la gauche radicale pour moi.
Connaissant pas mal d'économistes, Dany Long n'est pas du tout radical.
Il y a plus radical que soi.
Nathalie Arthaud, quoique elle raconte pas que des conneries toujours. Les profs d'économie, c'est pas pour rien. Bon, pour en revenir au sujet, j'entends que effectivement à la tête de PSA, Monsieur Tavares, enfin à la tête de PSA, le consortium qui a remplacé
PSA, c'est une nébuleuse énorme,
PSA, de cette nébuleuse.
Moi, alors, je travaille.
Oui, bon, heureusement qu'avec un salaire pareil, il a fait du bon boulot quand même, parce que très franchement, j'ai jamais été contre le fait qu'il y ait un éventail des salaires. Après, cet éventail des salaires est devenu déraisonnable par rapport à ce qu'il pouvait être il y a quelques années, pas en Union soviétique, mais dans les pays capitalistes. Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, en moyenne, un dirigeant d'entreprise gagne 250 fois ce que gagnent ses salariés, c'est un chiffre BFM, ou si on regarde certaines associations, 300, 350 fois, ça n'a pas de sens économique. Ça n'a pas de sens économique. Dans les 30 Glorieuses, on était à peu près à 30 fois, on se portait pas plus mal. Je pense que quand on gagne 30 fois ce que gagne en smicard, on est déjà capable de gérer correctement les choses. Voilà. Donc, une fois de plus, mon gros problème, c'est les patrimoines, c'est pas les salaires, mais... Un tel salaire, déjà je trouve pas normal que là on est d'accord que l'Assemblée Générale ait pas son mot à dire là-dessus. Et moi je serais favorable à ce qu'on limite de tels salaires. Et il y a beaucoup de patrons qui gagnent. Alors il y a une très forte disparité entre les grands patrons quand même. Mais il y a beaucoup de patrons qui gagnent des salaires qui sont excessifs par rapport à leur performance.
J'ai un auditeur qui me dit actionnaire à l'évidence. Je pense qu'il y a une faute de frappe. Il doit vouloir parler d'Atos, j'imagine. Bah, il préférait un Tavares à la tête de la boîte, même très bien payé.
Oui, mais ça, oui, mais c'est quelqu'un qui fait le job.
Ah non, mais les compétences implique... de Carlos Tavares sont absolument pas remises en cause.
Non, non, mais ça, personne ne le remet en cause. Mais effectivement, on préférerait que certains patrons qui ont des salaires tout aussi délirants soient tout aussi compétents. Bon, ça, c'est vrai.
Alors, moi, il faut bien rappeler qu'on parle de. Une poignée de mandataires
sociaux. Oui, non, bien sûr.
Qui sont à la tête d'entreprises multinationales et que ça n'est absolument pas le reflet de la réalité de la rémunération d'un patron français, même d'ETI.
Bien sûr. Les ETI, c'est autour des 4000 balles.
ETI, on arrive heureusement à monter un peu plus par mois. Heureusement, on arrive quelquefois à être au-dessus de 4000 euros par mois. Je crois que les PME, effectivement, on est dans les 3500 par mois en moyenne.
Oui, c'est ça. Comme ça, c'est totalement normal.
Bien sûr.
C'est même pas assez.
Voilà. Ferrand Aziari.
Je suis pas très à l'aise à l'idée de commenter. En tout cas, une décision interne à une entreprise, c'est leur choix. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même un petit message à adresser à ceux qui pensent que les patrons français sont trop payés. Enfin, si c'est vraiment le cas, et peut-être que c'est le cas, moi, j'en sais rien. Il y a une solution très simple, c'est que vous montez une agence de chasseurs de têtes, vous cherchez des PDG plus compétitifs, tout aussi compétents pour moins cher. Je pense que si vous proposez à une entreprise quelconque un PDG aussi compétent et moins cher, a priori, l'entreprise ne va pas dire non. Et vous empocherez une petite commission généreuse. Donc, moi, je lance cet appel. à tous ceux qui sont en croisade contre la rémunération des grands patrons. Lancez-vous sur le marché des chasseurs de têtes, trouvez des talents aussi bons, plus compétitifs, et vous allez voir, vous allez vous faire un pognon de dingue et vous allez faire des économies aux actionnaires, parce que je ne crois
pas. Parce que vous croyez que des gens.
Je ne crois pas que les actionnaires, veulent volontairement surpayer leur PDG. A priori, si les actionnaires, une entreprise paye généreusement son PDG, c'est qu'elle estime plus ou moins, à tort ou à raison, que ce PDG va rapporter plus d'argent qu'il ne coûte en salaire.
À côté de ça, alors j'ai pas refait la liste là parce que ça m'aurait obligé à chercher dans pas mal d'archives. Mais il y a eu ces dernières années pas mal d'assemblées générales qui ont dit non à des rémunérations, y compris d'ailleurs en dehors de France, dans des pays anglo-saxons où on peut se dire que la rémunération du patron ne pose jamais problème. Je crois bien qu'une année, celle du patron de BP a été recadrée.
Tout à fait.
C'est arrivé
comme quoi, voilà, une entreprise à partir de ses actionnaires, ils sont les actionnaires qui décident les rémunérations des uns et des autres.
Oui, mais les actionnaires sont différents. Enfin, vous pouvez pas faire comme si l'actionnariat c'était que des petits actionnaires qui étaient pas d'accord.
Mais il y a pas que.
Il y a une raison pour laquelle les actionnaires rémunèrent généreusement le PDG. C'est pas complètement arbitraire, voyez-vous.
Vous faites comme s'il y avait un marché libre des PDG et que n'importe qui pouvait candidater. Ça marche pas comme ça. Vous savez très bien.
Mais peu importe, c'est pas le sujet. C'est-à-dire si vous payez un prestataire généreusement, c'est que vous estimez a priori que il rapporte quand même un peu plus que ce que vous le payez.
Je pense que les patrons de PME font tout aussi bien le job.
Et s'ils se trompent, c'est eux qui...
Les patrons de PME aussi bien le job et ils sont payés beaucoup moins.
J'ai observé depuis quelques années que cette fameuse question « les patrons sont-ils trop payés ?» est de moins en moins posée. Qu'il n'y a pas eu de scandale de prime à l'échec comme il a pu y en avoir il y a quelques années.
C'est vrai.
Avec des patrons qui partaient en laissant la boîte
dans une situation
absolument catastrophique. Voilà.
Non, c'est facile, les indicateurs de court terme, de les gonfler, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y avait la prime à l'échec. C'est très facile, vous endettez la boîte à mort, pouf, vous faites monter tous les ratios financiers, et derrière, prends l'oseille et tire-toi.
Les choses ont progressé.
Oui, ça, c'est vrai.
La parole des actionnaires a réussi quelquefois à mettre à bas des rémunérations jugées excessives
aux performances. Oui,
et les fameuses primes à l'échec que j'ai toujours trouvées absolument intolérables n'existent plus. Alors, je ne sais pas si le code AFEP-MEDEF, qui n'est un texte, une sorte de code de bonne conduite exclusivement consultatif...
Je pense que c'est pas que la bonne conduite.
Petit à petit, les choses progressent. Bon, on verra ce que donnera cette Assemblée Générale. Et évidemment, encore une fois, le vote ne sera que consultatif. Il y a pas mal de tabous que le gouvernement, ces derniers jours, a tenté d'attaquer. Alors, ça a commencé avec Stanislas Guérini, qui a mis le mot « mérite » derrière le mot « rémunération », tandis que se prépare une réforme de la fonction publique. Ça s'est poursuivi avec l'idée que, pareil, le fait d'avoir accès à un logement HLM à vie quand on était trop riche, ou quand on avait des revenus qui avaient progressé, eh bien, il fallait quand même se poser la question de savoir s'il n'y avait pas un ménage à faire. Et puis, là, le dernier en date, c'est l'histoire de l'emploi à vie, du statut de fonctionnaire. Et vous avez pris la plume le 12 avril, Olivier Babot, pour dire qu'effectivement, le modèle du fonctionnaire à vie avait vécu.
Malgré un conflit d'intérêts, ce qui est courageux.
Alors, cela étant, je plaide contre ma paroisse, donc limite, on devrait peut-être interdire aux fonctionnaires de défendre les fonctionnaires, mais je suis plutôt pour un changement. Alors, je ne sais pas si le cachet je serais concerné, mais oui. Aujourd'hui, quelle est la situation? En fait, personne n'est content. L'attractivité des métiers publics est en chute libre. En particulier dans l'éducation, tu es obligé de faire du speed dating, tu es obligé de prendre les gens dans les tréfonds des classements, plus personne n'a envie d'être fonctionnaire. En tout cas, tu as l'impression que c'est le truc. Donc ça, c'est jamais bon signe, hein. Quand une profession n'attire pas, c'est quand même évidemment pas très...
Plus précis, Olivier, on a eu certaines matières de CAPES où il y avait plus de places disponibles que de candidats.
Bien sûr.
Ce qui veut dire que vous êtes
plus à fournir les postes.
Vous finissez par baisser le niveau de sélectivité parce que vous n'avez plus personne pour assurer les postes.
En face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui ont l'impression de payer de plus en plus pour un service public qui est de plus en plus dégradé. C'est Fipeco, donc c'est notre excellent François Eckel qui a très bien montré l'augmentation de la fonction publique, beaucoup plus rapide que l'augmentation de l'emploi privé, beaucoup plus rapide que l'augmentation de la population. Si on prend en base 100, je prends en 1997, je cite de mémoire, mais enfin la population, elle doit être à 105 aujourd'hui, et en fait l'emploi des collectivités locales qui a le plus augmenté, et l'emploi dans la santé. Est-ce qu'on a l'impression que les choses vont mieux? Pas du tout. Donc le système ne fonctionne pas d'une certaine façon. Et l'autre idée très importante, il faut que les gens réalisent, quand vous recrutez aujourd'hui un fonctionnaire, vous le recrutez autour de 24 ans, sur concours, d'ailleurs en général sur des critères très très scolaires, une fois qu'il est recruté, qu'il est titulaire, vous l'avez sur le rôle de l'État pendant 43 ans. C'est-à-dire que ça ne va plus bouger. Et après, en plus, avec la pension de réversion, c'est quasiment un siècle que vous allez le garder. Donc, en fait, c'est un engagement extraordinaire. Et ça veut dire quoi ? Que vous êtes sûr d'avoir besoin de sa compétence exactement pendant quasiment un demi-siècle ? Et puis en face, que lui, il est sûr d'avoir envie de faire la même chose pendant quasiment un demi-siècle. Mais est-ce que ça correspond au monde d'aujourd'hui ?
Alors, un fonctionnaire a la possibilité de quitter la fonction publique.
Exactement. Oui. Ah, est-ce que, c'est vrai, on peut...
Mais par contre,
personne n'est obligé de rester.
Effectivement, des licenciements purs et simples, comme on les connaît dans le privé.
Faut se lever tôt.
Il y en a.
Il y en a, mais quasiment pas.
Il y en a, c'est pour des fautes très graves.
Il faut évidemment des fautes très graves. Mais on laisse terminer. Mais
pour terminer juste, il faut pas que le mot de licenciement, forcément, il a un ressenti négatif. Je pense que on ne peut pas poser cette question sans reposer beaucoup plus largement la question du statut du fonctionnaire, de la façon dont on va évoluer. Aujourd'hui, il y a une très mauvaise gestion des ressources humaines chez les fonctionnaires. Il y a souvent très peu de perspectives de carrière, très peu de possibilités de vraiment évoluer. C'est pas motivant. Donc les gens viennent pas. Alors si tu veux que les gens viennent, si tu veux vraiment que ça soit quelque chose qui soit attractif, il faut essayer de repenser un petit peu. Toutes les entreprises aujourd'hui se sont rendues compte qu'il y a eu un changement dans le rapport de force. Ce sont pas elles qui recrutent, c'est les jeunes qui vont recruter l'entreprise parce qu'ils sont en rapport de force. Et ben l'État, il est dans la même situation. Il faut qu'il soit en mesure d'attirer les plus grands talents. Et aujourd'hui, vous avez des besoins qui vont évoluer de plus en plus vite. Il faut toujours rappeler qu'on est sur une exponentielle d'évolution technologique qui va changer très profondément l'économie, la société, probablement aussi la politique. Et si l'État n'est pas capable d'aller aussi vite, eh ben il va le faire, ce qui arrive déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va laisser l'initiative de l'évolution du monde à des sociétés privées qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est ça. Et en fait, elle ne sera que la voiture balai de la mondialisation en essayant de colmater ici et là. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État se transforme, soit beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'il faut se transformer.
Si je pousse votre raisonnement, et je ne suis pas loin de penser que l'un des points de départ de la fameuse réforme de l'État que nous n'avons jamais vue est probablement une remise en cause du statut de la fonction publique, évidemment avec clause du grand-père, car sinon c'est impossible de faire autrement. Mais bon.
Sauf dans le régalien, où ça se défend.
Je ne sais pas si on ira au bout d'ailleurs de cette réforme de la fonction publique, tant les tabous sont sévères, parce que là, ils sont lourds.
Pour aujourd'hui, je suis plus désaxé par rapport au plateau général que certaines fois. Hein. Il y a des fois où il y a beaucoup plus d'accords, y compris avec des gens qui ne sont pas des néo-soviétiques comme moi. J'entends ce que dit Olivier Babeau. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'attractivité. Moi, j'ai passé mon CAPES en 2004, quand j'ai eu en fin de thèse. On était quand même plus de 1000 candidats pour 20
postes.
Pour 20 postes.
Ah oui.
Ça, oui, et oui, j'ai le décroché et je l'ai utilisé pour rester dans le supérieur. J'entends ça. Mais l'attractivité, c'est pourquoi ? C'est pas parce que vous avez un statut à vie. Le statut à vie, c'est la contrepartie des mauvaises conditions de travail aussi. On pourrait déjà commencer par un peu mieux rémunérer ces personnes. Puis après, il faut pas oublier, si un emploi dans la fonction publique ne vous correspond pas, vous pouvez toujours partir. C'est ce qu'a fait mon père. Il est dans la fonction publique, il s'est ennuyé, il a créé une boîte. Voilà, ça vous pouvez le faire. Vous pouvez parfaitement le faire quand vous voulez. Donc, si les gens s'ennuient dans la fonction publique, etc., ils seront coincés. C'est vrai qu'il faut créer des perspectives de carrière plus attractives. C'est vrai, mais moi, quand j'entends mérite dans la fonction publique, je vois aussi un peu ce qui se passe. Depuis que j'y suis, le mérite, c'est souvent le copinage, en fait. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est souvent, on promeut un tel ou un tel. Ça se passe bien, par exemple, à l'université, qui est le monde que je connais le mieux dans le public, parce que j'étais pas mal dans le privé avant. Bah, à l'université, on promeut pas les meilleurs, on promeut les copains. Doit passer par des instances. À l'université, on a le Conseil national des universités qui fait le job. Ça devrait passer par des instances nationales et paritaires. Voilà. Si vraiment on veut faire du mérite, il y a déjà beaucoup de soi-disant mérite dans la fonction publique. C'est surtout du copinage. Et faut pas oublier que dans la fonction publique, on a aussi beaucoup de CDD, de gens qui multiplient totalement illégalement des CDD. Des entreprises se seraient déjà fait tilter si elles avaient fait la même chose. Donc, l'emploi à vie, c'est une contrepartie des mauvaises conditions de travail. Il faut pas
inverser ça. On peut inverser ça, mais
il faut pas l'oublier.
Mais vous parlez de hausse de rémunération.
Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, les professeurs du secondaire, un certain nombre de gens qui font des fonctions de, qui occupent des fonctions qui chez nous sont des fonctionnaires, soient infiniment mieux payés. Évidemment, dans les universités, c'est le cas, mais il y a beaucoup d'autres endroits où c'est beaucoup moins évident et où les conditions de travail sont mauvaises et il n'y a même pas la contrepartie d'avoir la sécurité de l'emploi. Et puis, à un moment où on se pose la question du travail des plus de 50 ans que Ferdinand appelle les vieux, donc à un moment où on se pose la question du travail des plus de 50 ans, est-ce qu'on va aussi commencer à licencier les fonctionnaires de plus de 50 ans? Et est-ce que la solution ne serait pas plutôt de mettre encore plus l'accent sur la formation tout au long de la vie, autrement que par le compte CPF où on nous emmerde avec des publicités par téléphone?
Oui, on est d'accord.
Dany Lang, on ne pourra pas augmenter l'ensemble de la rémunération de la fonction publique en augmentant en même temps les effectifs sans arrêt. On a fait plus de 66 000 recrutements en 2023.
Ça n'a pas de sens.
Bon, alors,
oui, mais en même temps, il y a des besoins dans la justice, dans l'éducation.
Oui, mais ça dépend
À l'université, enfin, on est dans un état
d'accord,
délabrement.
Mais est-ce que, voilà, la question est, parce qu'il y a quand même maintenant sur le. Il y a 5 700 000 fonctionnaires, mais il doit y avoir 20% de contrats de contractuels, quand même, dans ces 5 700 000.
Et puis, il y a de plus en plus de contractualisation.
A-t-on besoin de conserver un statut de fonctionnaire aujourd'hui? On sait pourquoi il a été créé. Est-ce qu'aujourd'hui, il a du sens? La réforme à la SNCF a fini par aboutir. On avait du mal à y croire au début. Aujourd'hui, il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF, mais la clause du
gouvernement. Mais l'emploi à vie a toujours été une anomalie dans un régime démocrate et républicain, pardon, mais personne aujourd'hui ne veut d'un Emmanuel Macron élu à vie. Personne ne veut que nos députés... On est content de vivre dans un régime où nos dirigeants sont régulièrement remis en question au terme d'un processus concurrentiel où ils remettent régulièrement en question leur poste. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que la notion même de méritocratie va à l'encontre de la notion de statut à vie, qui est une survivance de l'ancien régime. Donc, dans un régime concurrentiel, vous devez être capable de gérer votre main-d'œuvre en fonction des besoins, des administrés, en fonction des compétences, en fonction des évolutions technologiques. Songez, par exemple, que l'État est l'une des rares organisations sur laquelle la révolution technologique et numérique n'a eu quasiment aucune influence en termes de rationalisation de la main-d'œuvre. Est-ce bien normal? Est-ce bien normal? Le fait que la masse salariale n'ait pas beaucoup évolué malgré 20-30 ans de révolution technologique, c'est bien la preuve qu'il y a déjà une anomalie dans la gestion des ressources humaines. Donc non, le statut l'emploi à vie dans n'importe quel secteur est une anomalie. On n'envisage pas qu'une entreprise privée puisse garantir à ses employés un statut d'emploi à vie indépendamment de la manière dont l'environnement évolue.
J'entends vos arguments. On verra jusqu'où ira Stanislas Guérini dans sa volonté de réforme de la fonction publique.
C'est plus de la provocation qu'autre chose.
Je pense, j'en parlais avec Olivier Babou avant l'antenne, entre ce qu'on dit et ce qui... Et que sera.
Non.
Il y a sans doute.
C'est de la provocation pour faire passer d'autres choses, notamment la précarisation des chômeurs encore accrue.
Là, on pourrait. Enfin, j'ai pas mis dans les sujets du jour la réforme de l'assurance chômage.
On parle pas assurance chômage ce matin.
Vous voulez qu'on parle de l'assurance chômage?
Non, mais protectionnisme.
Protectionnisme. Allez, on a 4 minutes pile. Donc, Bruno Le Maire, à peu près comme pour les voitures, le bonus écolo, il veut que les aides à la rénovation, donc MaPrimeRénov et les certificats d'économie d'énergie, les CEE, soient principalement centrés sur les pompes à chaleur qui ont été fabriquées en Europe, histoire de dire, sans dire, qu'on veut plus des pompes à chaleur chinoises. Oui. C'est du protectionnisme.
Ah oui, et c'est très bien.
Et c'est très bien.
C'est très bien.
Parce pas droit au but, hein, si vous voulez.
Juste, les États-Unis, les Chinois, ils ne se gênent pas sur le protectionnisme. Nous, on est naïfs. On fait passer la concurrence avant les intérêts industriels du pays et de l'Europe. Je suis désolé, il y a un moment où il faut remettre en cause la politique de la concurrence et faire ce que font les Américains et les Chinois. Sinon, on ne s'en sortira pas.
Oui, là où je vous rejoins, c'est que l'Amérique est protectionniste.
Oui.
À plein de niveaux différents, avec plein d'armes différentes.
Bien sûr, mais c'est le bastion, la nation du protectionnisme.
Bon, en tout cas, Dany Lang défend l'idée.
Ah oui, complètement.
Je vous rappelle, je ne vais pas vous rappeler les critères du bonus écolo, mais c'est très très clair. Voilà, ça a été habilement construit.
Mais tous les bonus écolo, toute la rénovation écologique devrait être protectionniste.
Et je comprends aussi l'argument de Bercy de dire j'en ai marre de dépenser des milliards d'aides pour aller enrichir.
Fergan, là encore, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre à la fois du fait que la transition écologique sera inflationniste et évincer des biens et des services environnementaux au seul motif qu'ils sont chinois et étrangers. À un moment, il faut choisir. Si le but, c'est de diffuser le plus possible les technologies qui permettent de décarboner, et bah, tout est bon à prendre. Si les meilleures pompes à chaleur sont chinoises, et bah, elles sont chinoises. Du reste, le protectionnisme écologique est une imposture. Aucune nation ne détient à elle seule l'intégralité des ressources naturelles, économiques, financières pour produire les biens et les services environnementaux. Vous avez besoin d'une division international et du travail, et si vous vous en passez, vous aurez beaucoup plus de mal à produire, commercialiser, industrialiser les biens et les services environnementaux.
La France le sait très bien, le nucléaire
qui explique nos bonnes performances environnementales n'a pas été développé dans un contexte autarcique, c'est une technologie américaine qu'on a achetée, la fameuse licence Westinghouse. Vous savez bien que si on avait fait un choix protectionniste à l'époque, on se serait infligé une perte de chance et on aurait peut-être une énergie beaucoup plus carbonée. Donc non, on a besoin de la division internationale du travail, on a besoin d'une circulation des connaissances. Et donc, si les Chinois sont meilleurs sur les pompes à chaleur, eh bien, c'est très bien. À nous de trouver des créneaux.
Je donne la parole.
On a un avantage qu'on peut comparer.
Ce qui inquiète l'Europe, c'est qu'on les craint meilleurs sur la pompe à chaleur, meilleurs sur le panneau solaire, meilleurs sur la voiture électrique, meilleurs.
Voilà, les Chinois, de toute façon, ne peuvent pas subvenir aux besoins de toute l'humanité. Donc, même s'il y avait 1,5 milliard de travailleurs dans la transition écologique, il y aurait toujours des parts de marché à prendre ici.
Olivier Babeau, pour clore le sujet. Ah, j'adore ce sujet. Il nous faut encore une grosse demi-heure.
Je suis plutôt d'accord avec Dany. Alors, d'abord, effectivement, le risque, c'est quand même. Oui, pour bien terminer, mais.
Socialo-communiste.
C'est vrai. Bon, alors, le risque, c'est quand même que ça soit
Staline sort de ce corps.
Modulo. Le risque, c'est que ça soit inflationniste, évidemment. On ne peut pas se plaindre de l'inflation et de l'autre côté dire qu'il faut être protectionniste. Et puis, deux, on n'est pas tout à fait. Enfin, il ne faut pas que ça soit une raison pour ne pas faire d'efforts nous-mêmes et se dire, on peut être mauvais parce que, de toute façon, on est protégé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a été extrêmement naïfs. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de géants européens depuis très longtemps et en permanence détruire tous les gens et toutes les productions et être tellement naïfs qu'on n'impose pas chez nous les conditions que les autres imposent. Finalement, c'est de la concurrence loyale. Il faut que chacun ait les mêmes niveaux.
Et pourquoi les Chinois sont meilleurs? Ils ont copié les brevets sans les payer.
Dany, j'adore ce débat. Et en fait, mes oreilles sont réceptives à l'ensemble de vos arguments. J'arrive pas à trancher d'un côté totalement ou de l'autre totalement. J'entends bien celui qui dit je peux pas continuer à produire dans les conditions qu'on m'impose mais ça c'est dans les bouquins faire gaffe
pour tout le monde. Mais non, mais les Chinois ne pourront jamais subvenir aux besoins de toute l'humanité, combien même ils seraient bons partout.
Mais le protectionnisme, c'est pas la Corée du Nord.
Il y aurait toujours besoin de produire en Europe. Opposer le made in China et le made in Europe quand on voit l'interdépendance des chaînes de valeur, ça n'a pas de sens.
Je vous promets qu'on recommencera. On fera également, si vous voulez, la réforme de l'assurance chômage. Très bon papier.
Ricardo, priez pour nous. Pardon,
Ricardo. mais quelquefois, si vous voulez. J'aime beaucoup Ricardo, si vous voulez, Frédéric Bastiat, mais nous sommes en 2024 et l'ensemble et l'intégralité de ce qu'ils ont écrit ne s'applique pas forcément.
Oui, et notamment.
Le jeu des avantages comparatifs.
C'est les avantages absolus aujourd'hui.
Mais les avantages.
C'est Smith.
Le jeu des avantages comparatifs, c'est quand même à l'économie ce que l'héliocentrisme est à l'astronomie.
Je suis d'accord avec l'idée que la théorie des avantages comparatifs a quand même de l'avenir aujourd'hui, par exemple.
Ah non, mais là, je suis en désaccord complet. Les avantages comparatifs sont
rentables. On a fini.
Les avantages comparatifs, vous les pratiquez, chacun. Vous sortez votre carte bleue. Vous ne faites pas vos médicaments tout seul.
L'assurance chômage. Très bon papier de Jean-Marc Vittori qui dit c'est la bonne réforme, pas au bon moment, là, ce matin. Oui, on en reparlera. Je pense qu'il a complètement raison. C'est fini.
Cette note soviétique.
Le soviétisme. Fergan Azier et Olivier Babeau. Dany Lange, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.